en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci pour cette invitation que j'ai bien volontiers acceptée, même si à la réflexion, j'ai réalisé que c'était probablement un exercice assez périlleux de parler de droit sous la haute surveillance de Gilbert Guillaume. En effet, je fus un juriste diplômé. Mais il y a de ça un certain temps, et mes souvenirs commencent à dater un peu. Ils remontent au temps lointain où je travaillais sur l'Estoppel à l'Académie internationale de droit de La Haye. La suite de mes engagements professionnels m'a plutôt porté sur la pratique que sur la théorie, même si j'ai eu la chance à plusieurs reprises de réfléchir sur ces concepts, et notamment à l'occasion de ce que j'appelle souvent mon itinéraire un peu particulier, mes tribulations dans la gouvernance, dont j'ai en quelque sorte traversé successivement trois états. L'état solide, quand j'étais au service de la République française, l'état liquide, dans les 15 années que j'ai passées à servir la construction européenne, et enfin l'état gazeux, qui est celui dans lequel je me suis retrouvé quand j'ai été élu directeur général de l'OMC. Et c'est de ce gazeux que je vais partir cet après-midi. Je crois en effet que dans le cas de l'OMC et des rapports entre le droit et l'OMC, ce gazeux est un gazeux un peu particulier par rapport à ce que l'on connaît d'ordinaire du droit international. C'est un gazeux un peu liquide, et par moments même probablement un peu solide, une sorte de droit international plus, de droit international dopé. Et ce sera mon premier point, et le second consistera à regarder vers l'avenir pour comprendre, je crois, que ce droit international qui est déjà plus avancé que le droit international normal, je parle du droit de l'OMC, du droit commercial international, devra évoluer encore plus dans cette direction pour des raisons qui sont intrinsèques à l'évolution de l'échange international qui se transforme profondément. Alors, mon premier point est que ce droit de l'OMC, ce système qui est du droit. L'OMC, c'est d'abord un corpus de règles qui sont administrées. C'est un promontoire assez avancé de la gouvernance internationale et du droit international. Alors bien sûr, c'est du droit international, au sens classique du terme. Je veux dire bien vessalien, qui régit des rapports entre souverains. Et c'est le cas depuis le XIVe siècle avant Jésus-Christ, lorsque le premier traité de commerce fut contracté, signé entre le pharaon Aménophis IV et le roi d'Alasia. Alasia de l'époque, c'est la Chypre d'aujourd'hui. Et depuis ce temps, des souverains passent entre eux des accords, qui s'appellent des traités, qu'ils négocient, ils se mettent d'accord à l'issue de processus diplomatiques qui consistent à échanger des concessions. Et lorsque l'équilibre de ces concessions est atteint, alors on contracte et on signe un traité. Droit international tout à fait classique. Même fiction juridique que dans le droit international dans l'ensemble, et notamment cette fiction de l'égalité des parties, qui est une fiction du droit international public. Même mise en œuvre des obligations entre les mains d'acteurs souverains que dans le droit international classique. Et même concept que, et ça compte évidemment pas mal en matière d'échange international, que ce qui est juste n'est pas quelque chose d'immanent, mais quelque chose de contingent. Ce qui est juste dans le droit commercial international et dans le droit de l'OMC, ça n'est pas ce que vous et moi, au nom de valeurs communes, constantes, importantes, considérant comme juste. Ce qui est juste, c'est ce que des parties diplomatiques, à un moment donné, s'accordent à considérer comme juste. Et donc, ça change. Donc, en ce sens, le droit de l'OMC est un droit international classique, inter-national, entre nations, entre États-nations. La nation étant la fiction qui habille l'État. Mais ce droit de l'OMC, ce système juridique, est plus avancé à bien des égards que ce droit international classique dont il est issu, ce système westphalien où des molécules étatiques contractent ou décontractent des obligations au fur et à mesure de leur volonté, même si, avec le temps, le jusque gain, un certain nombre de principes généraux, on sert cette volonté étatique dans un certain nombre de normes. Mais le droit de l'OMC, le droit commercial international, celui qui préside à la régulation de l'échange international, est plus supranational que le droit ordinaire. D'abord parce que il y a un stock de règles extrêmement important, tout à fait considérable, et très précises dans un certain nombre de cas qui disciplinent l'échange commercial international. Et ensuite parce que, et c'est probablement encore plus important, les mécanismes de mise en œuvre de ces obligations, qui ont été contractées par des États-nations souverains libres de leur volonté, sont beaucoup plus avancés, beaucoup plus sophistiqués, qu'il s'agisse de la surveillance par les États membres de l'OMC de la mise en œuvre de leurs obligations respectives. Les États membres de l'OMC se surveillent au moyen de procédures qui appartiennent à l'administration de l'OMC et qui sont une espèce de grande horloge suisse de comités divers et variés où ils doivent rendre des comptes sur leur comportement, sur l'évolution des obstacles aux échanges qu'ils imposent aux autres, sur, disons, la validité de la mise en œuvre des obligations qu'ils contractent au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Même, et j'y viens maintenant, même sans ce qui constitue la grande originalité de l'OMC, c'est-à-dire son mécanisme de règlement des différends, si on compare l'OMC sans même évoquer le mécanisme de règlement différent à l'Organisation mondiale de la santé, ou à l'Organisation météorologique internationale, ou à l'Organisation internationale du travail, même à ce niveau, l'OMC dispose d'un mécanisme de mise en œuvre très, très, très particulier, où la pression sur le comportement individuel des États membres est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Et évidemment, surtout, ce qui distingue l'OMC des autres organes de la régulation internationale, que ce soit en matière économique ou dans d'autres domaines, c'est son mécanisme de règlement des différends très particulier, le joyau dans la couronne, disent les commentateurs, où le Rubicon de la supranationalité a été franchi, ce qui n'est pas le cas dans aucun autre domaine du droit international westphalien. Rien ne peut obliger un État-nation souverain à respecter une décision de justice dans le système international classique s'il ne le souhaite pas, s'il ne le veut pas. Alors j'ai eu, Gilbert Guillaume s'en souviendra, avec quelques-uns de mes bons amis, excellents juristes comme Alain Pellet, des grandes controverses sur ce point, les juristes prétendant que, bien entendu, les décisions de la Cour de la Haye sont obligatoires. Ce à quoi je réponds, certes, mais si elles ne sont pas appliquées, ou si un État qui perd un procès peut ne pas l'appliquer, c'est que c'est pas obligatoire. Ah si, c'est quand même obligatoire, me répond-on, mais on n'est pas contraint, il n'y a rien qui vous contraint à l'appliquer. À l'OMC, il en va différemment, puisqu'en cas de contentieux, si une partie perd un procès, alors elle doit obtempérer, faute de quoi... Il arrive ce que j'appelle des sanctions. Si vous perdez un procès à l'OMC et que vous n'obtempérez pas, alors tombent des sanctions. Alors, tout ceci est très joliment, très astucieusement, enrobé de formes vessaliennes. Ce ne sont pas des sanctions. C'est un rééquilibrage des concessions. Étant entendu que dès lors que vous appartenez à un système d'équilibre des concessions et que vous perdez un litige, si vous n'appliquez pas les résultats du litige, vous-même vous déséquilibrez les concessions en question et donc le partenaire à l'échange est autorisé à rééquilibrer de son propre chef ses concessions. Vous voyez que le raisonnement est un peu compliqué, mais pour les diplomates, c'est mieux, évidemment, parce que ça évite de dire que c'est de la supranationalité. Il en va de même de la manière de prendre les décisions contentieuses à l'OMC. Les décisions contentieuses à l'OMC, qui passent par un système première instance, deuxième instance, les décisions contentieuses à l'OMC sont bien entendu prises par les membres, ce qui respecte la forme westphalienne. Ce sont les membres de l'OMC qui prennent les décisions contentieuses à la fin. Et là où on a franchi le Rubicon de la supranationalité, c'est-à-dire lorsque le GATT est devenu OMC en 1994, ça s'est juste fait par une ce qu'on appelle une note de bas de page. Ce sont les membres qui, par consensus, prennent la décision contentieuse, et puis il y a une petite note de bas de page qui a été ajoutée, et qui précise que la partie perdante ne peut pas s'opposer au consensus. Là aussi, très astucieux, très malin, ça a l'air d'un système westphalien. En réalité, à partir du moment où c'est le cas, vous êtes obligé d'obtempérer. Et donc, de ce point de vue, le droit de l'OMC a un caractère mordant, bien supérieur à tout ce qui existe dans le reste du système international. Mais néanmoins, il reste de nature westphalienne, par exemple en ce que seuls des États peuvent attaquer des États. À l'OMC, une entreprise ne peut pas attaquer un État. En matière commerciale, une entreprise ne peut pas attaquer un État. Il en va différemment en matière d'investissement, comme vous le savez, mais l'investissement n'est pas un régime multilatéral, c'est un régime totalement bilatéral. Donc voilà pour cette première caractéristique. Je terminerai par quelques remarques sur cette première caractéristique. La première, c'est que pour tout esprit de bon sens, il y a un certain paradoxe dans le fait que c'est un système interétatique qui discipline l'échange commercial international. Au fond, les États ne commercent pas. Ce sont des entreprises, ce sont des acteurs économiques qui commercent. Et à cet égard, c'est un peu curieux, l'explication venant du fait que les États ont toujours estimé qu'il fallait protéger leur capacité à taxer quelque chose quand quelque chose est franchi. C'est là que datent les droits de douane, par exemple. C'est un système, par ailleurs, qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'est pas du tout un système uniforme. À l'OMC, les régimes commerciaux des 160 et quelques membres de l'OMC ne sont pas du tout les mêmes. Mais le principe n'est pas que tout le monde a le même système commercial, mais que lorsque vous avez un système commercial, vous devez l'appliquer de la même manière à tous vos partenaires à l'échange. C'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Évidemment, c'est quelque chose de très, très différent. Avant-dernière remarque sur ce point, bien entendu, le droit de l'OMC n'est pas le seul à discipliner, à réguler l'échange commercial international. Ça, c'est de l'OMC, c'est la partie multilatérale, mais les États, nations, souverains gardent la capacité de contracter des obligations qui vont plus loin que celles qu'ils contractent en multilatéral, et c'est ce qu'ils font au plan régional ou au plan bilatéral. Donc on a des disciplines, OMC+, et OMC++, par exemple, lorsque des États s'accordent des préférences bilatérales, et pour ce faire, on doit obtenir le feu vert de l'OMC, puisque c'est une dérogation à ce que j'indiquais à l'instant même, qui est le fait qu'on applique le même régime à tout le monde. Ce droit commercial international baigne complètement dans le reste du droit international, de telle sorte que l'ouverture des échanges, qui est dans la base idéologique du droit de l'OMC, de ce qui réunit les membres de l'OMC à l'OMC, c'est l'idée que l'ouverture des échanges, c'est bien, c'est bon pour la croissance, pour les développements, sous certaines conditions que j'ai développées quand je suis parti de l'OMC dans un ouvrage qui s'appelle « Le consensus de Genève », qui est un ouvrage en anglais. Tout est fondé sur l'idée que l'ouverture des échanges ne prime pas sur d'autres objectifs dont la légitimité peut être supérieure. En matière de sécurité, en matière de santé, en matière d'environnement, le système juridique de l'OMC, depuis que l'OMC a été créé, c'est-à-dire ça fait partie du préambule des accords qui ont institué l'OMC en 1994, il est bien précisé que l'ouverture de l'échange, c'est un moyen, mais que ce moyen est à des fins de développement des économies de l'emploi. Et d'ailleurs, la jurisprudence de l'organe d'appel de l'OMC, les diplomates tiennent à ce qu'on parle d'organe d'appel et pas de cour d'appel. Une cour, ça sent la supranationalité, ça sent le droit complet. On dit organe, comme ça, on est sûr de ne pas élever ce dispositif trop haut dans l'ordre de la supranationalité. La Cour d'appel de l'OMC a maintes fois confirmé ce principe que le droit de l'OMC n'est pas en isolation clinique, pour reprendre les termes d'un arrêt célèbre, d'une décision célèbre, par rapport au reste. Enfin, et toujours sur ce point, pour dire que, à la pratique, le fait d'avoir un droit international commercial plus avancé, plus contraignant, plus constitué, en quelque sorte, que le droit international classique, n'a pas que des avantages. Et il a notamment deux inconvénients que j'ai pu constater dans les années que j'ai passées comme directeur général de l'OMC. Le premier, c'est que un mécanisme de règlement des différends aussi contraignant que celui-là exerce un effet paralysant sur l'élaboration de la règle de droit. Des diplomates qui ont toujours du mal à se mettre d'accord ont encore plus de mal à se mettre d'accord quand ils sont entourés de juristes qui leur disent « Attention, si le point virgule est là et que la virgule est là, votre phrase ne va pas vouloir dire la même chose si elle doit être interprétée par un panel en première instance ou par la cour d'appel de l'OMC. » Et de fait, d'ailleurs, quand on regarde un certain nombre de décisions contentieuses à l'OMC, certaines décisions montrent effectivement que la place d'un point virgule ou d'une virgule, comme dans d'autres systèmes juridiques, qui en tout cas utilisent ce type de ponctuation, peut avoir une grande importance. Et donc, au fond, on a déjà un peu de mal à se mettre d'accord au plan multilatéral sur des règles, surtout quand il faut se mettre d'accord par consensus. Mais, encore une fois, quand ces règles risque d'être interprété par quelqu'un d'autre que le législateur et que les conséquences de ça peuvent être très importantes pour tel ou tel producteur de biens ou de services. Donc il y a un effet de paralysie qu'il faut avoir en tête, ça n'a pas que des avantages. Et de fait, des diplomates du GATT se mettaient souvent plus vite d'accord sur des choses que les diplomates de l'OMC. Et puis par ailleurs, il y a un autre inconvénient à mes yeux, qui est que la force de ce système de règlement des différends exerce en quelque sorte un effet magnétisant sur des contentieux, des différences qu'on a en quelque sorte plutôt tendance à mener vers l'OMC, parce que là, il y aura une décision obligatoire, alors qu'il s'agit parfois de choses qui ne sont pas forcément et d'abord reliées à des questions de fluidité de l'échange international. J'en donnerai un exemple tout à l'heure. Donc voilà pour ce droit actuel, en quoi il se distingue, en quoi il s'apparente à des choses que nous connaissons. Et encore une fois, l'idée étant que ça va plus loin. Et mon sentiment est que si on se projette vers l'avenir, ce droit de l'OMC va devoir, assez vite, aller de nouveau, sensiblement plus loin, en quelque sorte, vers davantage de supranationalité. Donc ce qui est droit international plus aujourd'hui va devoir devenir droit international plus dans l'avenir. Pourquoi ? Parce que l'échange international a fondamentalement changé de nature au cours des dernières décennies. C'est d'ailleurs un sujet que j'ai déjà eu l'occasion, certains d'entre vous s'en souviennent, d'évoquer dans cette maison. L'échange international qui, au fond, et pour faire très simple, était un échange entre quelqu'un qui produisait dans un pays et puis quelqu'un qui consommait dans un autre pays, ce flux donnant lieu à une importation, c'est-à-dire à une exportation, cet échange international est en train a changé fondamentalement et continue à changer sous l'effet de la technologie, en ce sens que les processus de production et de biens et de services se multilocalisent au nom de chaînes de valeur, et que ce qui, en gros, dans le temps, était produit dans un pays et exporté dans un autre pays qui le consommait, est aujourd'hui produit en moyenne dans 5, 6, 7, 10 pays. Ceci étant vrai, d'ailleurs, aussi bien des biens que des services. En matière de biens, par exemple, plus des deux tiers du commerce international aujourd'hui ne sont pas des biens, ce sont des parties de biens, ce sont des morceaux de biens. Ce sont des biens intermédiaires dont l'assemblage à un moment donné donne un produit final, et il en va de même en matière de services. Dans ce monde de multilocalisation croissante des systèmes de production de biens et de services, et ça va continuer parce que, même si le rythme peut changer, et nous sommes d'ailleurs probablement dans un moment, après 30 années d'extraordinaire expansion de ces chaînes de valeur, nous sommes probablement dans un moment où les progrès sont moins rapides, même s'ils vont dans la même direction. Pourquoi ? Tout simplement parce que la technologie écrase de plus en plus le coût de la distance. Or, ce qui compte dans l'économie internationale, ce n'est pas la distance, c'est le coût de la distance. Le coût de la distance étant écrasé, la division internationale du travail est facilitée, et les bons vieux principes de M. Ricardo et de M. Schumpeter prennent une actualité, une force qu'aucun de ces deux auteurs n'aurait jamais pu imaginer qu'ils prissent dans la réalité. La division internationale du travail, à partir du moment où ce qui la limitait dans le temps, c'est-à-dire les frottements liés au coût de la distance, disparaissent, devient très très forte. Et là, on voit ce qui se passe, et c'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie à la fois l'efficacité et la violence de la globalisation économique dans laquelle nous sommes, et qui se traduit par cette augmentation de l'échange international, en tout cas en volume. Je n'en reviens pas sur le point volume-valeur ajoutée, ce serait trop long pour le moment. Cette considérable évolution de l'échange international a une conséquence majeure pour la régulation de l'échange international, c'est que la pertinence à supposer que c'eût été le cas dans le passé, la pertinence de mesures dont l'objectif était de protéger des producteurs de la concurrence étrangère s'efface petit à petit. Au fur et à mesure que le contenu en importation des exportations augmente, et si on regarde les chiffres, c'est ainsi que se traduit la multilocalisation des processus de production. Il y a 20 ans, le contenu moyen en importation des exportations dans le monde, c'était 20%. Aujourd'hui, c'est 40%, et dans 20 ans, ce sera 60%. Et donc, du jour où 60% de vos exportations, ce sont des importations auxquelles vous ajoutez de la valeur, shooter sur vos importations devient stupide. Même plus parce qu'il faut respecter des règles et ouvrir les échanges. Ça devient curieux de détériorer de vous-même la compétitivité de vos exportations en taxant vos importations. Et donc pour cette raison, pour d'autres aussi, mais pour cette raison essentielle, les obstacles à l'échange qui étaient là dans le temps, comme les droits de douane, ou même à certains égards des subventions, des quotas, des systèmes de ce type, dont l'objectif était de protéger les producteurs de la concurrence étrangère, diminue petit à petit, pour faire place à d'autres natures, à des obstacles d'autres natures, qui sont ceux qui proviennent non pas de la nécessité ou de la volonté de protéger les producteurs, mais de la nécessité ou de la volonté de protéger les consommateurs. C'est ce que j'appelle le passage de la protection à la précaution. Pourquoi ? Parce que, pour un certain nombre de raisons, et elles sont dans l'ensemble plutôt bonnes, l'humanité devient moins pauvre. Quand on devient moins pauvre, on acquiert, ce qui est formidable, le droit de rêver. Le problème étant, comme chacun sait, que lorsqu'on acquiert le droit de rêver, on acquiert aussi le droit de cauchemarder, et que moins on est pauvre, et plus on peut se préoccuper de choses comme la santé, l'environnement, des choses de nature beaucoup plus qualitative. Et c'est ça qui fait monter le désir, le besoin et le niveau de la précaution. Simplement, ces niveaux de précaution sont hétérogènes. Ils sont définis par ce que j'appelle des préférences collectives, qui sont fortement, en tout cas pour certaines d'entre elles, et je vais y revenir, teintées d'idéologie, de culture, de valeurs, et donc elles sont différentes. Et alors que dans le monde précédent où il s'agissait, pour augmenter ou pour faciliter l'échange international, il s'agissait d'éliminer des mesures dont l'objectif était de protéger les producteurs, en matière de précaution, il ne peut pas s'agir d'éliminer la mesure. Personne ne va aller dire devant un Parlement, « Mesdames, Messieurs, je suis favorable à l'échange international, qui est bon. » Parce que c'est le cas, je pense que nous devrions relaxer le maximum de pesticides que nous administrons à notre frontière sur les fleurs coupées, parce que le Rwanda est un pays qui doit se développer. Et donc nous allons faire un effort particulier pour le Rwanda, et nous allons accepter des roses dont le niveau de pesticides déroge à la norme que nous administrons à notre frontière. Aucun Parlement ne va jamais faire ça. Parce qu'il s'agit de choses essentielles pour, encore une fois, la santé, l'environnement, la sécurité, des éléments en quelque sorte d'identité. Et donc le problème n'est plus d'éliminer ou de réduire la mesure. Le problème, c'est d'éliminer ou de réduire la différence entre les mesures. Et ceci est un exercice évidemment très très différent pour beaucoup beaucoup de raisons. Mais c'est cela qui compte aujourd'hui. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais disons, si vous opposez l'ancien monde de la protection au nouveau monde de la précaution, l'ancien monde de la protection, aujourd'hui, ça se chiffre par un droit de douane moyen pondéré mondial qui est de l'ordre de 5%. Le nouveau monde de la précaution, ça se chiffre par un coût moyen global mondial d'ajustement à la charge des producteurs à différents systèmes, qu'il s'agisse du niveau ou de l'administration de la précaution, de 20%. Aujourd'hui, la différence de l'administration de la précaution est 4 fois plus coûteuse pour le commerce international que l'administration de la protection. Alors c'est quoi ? C'est des normes, c'est des standards, ce sont des processus de certification, ce sont des processus d'homologation, c'est la sécurité des jouets, des briquets, des fleurs coupées, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les pesticides sont un problème pour la santé, c'est les équipements de sécurité des voitures, c'est la réglementation des banques, des assurances, tout ce qui est prudentiel. Tout ce qui est de l'ordre de la précaution. Alors ça va de sujets comme par exemple la sécurité des voitures. En Europe, on a des petits pare-chocs. Aux États-Unis, il y a des gros pare-chocs. Pourquoi ? Parce que les autorités de régulation de la sécurité routière aux États-Unis font des tests sur les voitures, et le résultat de ces tests, c'est qu'il faut des gros pare-chocs pour protéger les passagers des voitures. En Europe, les autorités de sécurité routière font des tests et trouvent qu'il faut des petits pare-chocs, que ça suffit pour protéger la sécurité des passagers. Pourquoi ? La notion de voiture n'est pas fondamentalement différente des deux côtés de l'Atlantique. La nature des chocs, pas non plus, encore qu'on peut dire qu'il y a plus d'autoroutes, mais les Américains vont moins vite, en général. Donc il n'y a pas de raison idéologique bien convaincante, culturelle, qui explique cette différence. C'est tout simplement que les ingénieurs de deux côtés n'utilisent pas les mêmes tests parce qu'ils n'ont pas les mêmes bases scientifiques. Bon. Supposons que la bonne solution, ce qui à mon avis est le cas, ce soit que tout le monde ait des moyens pare-chocs, parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de mettre des moyens pare-chocs à tout le monde que des petits pour certains, des gros pour d'autres, et puis de retirer les petits quand on veut exporter vers les États-Unis pour mettre des gros et vice-versa, tombe sous le sens. Il faudra que les autorités de la sécurité routière américaine et européenne se mettent d'accord sur des crash tests similaires. Ça s'appelle de la convergence réglementaire. À mon avis, c'est pas absolument sorcier. On n'en est pas là. C'est d'ailleurs un des enjeux de ce fameux traité transatlantique qui est en cours de discussion. Mais ça fait du sens. De même, d'ailleurs, pour la mise en marché des médicaments ou pour la sécurité des jouets ou des briquets, qui sont des domaines, si je puis dire, idéologiquement assez plats. Si on parle OGM, si on parle bien-être des animaux, si on parle protection des données privées, là, on est dans des domaines beaucoup plus difficiles. Parce que là, ils sont teintés, influencé par des attitudes idéologiques, philosophiques, culturelles, parfois religieuses, dans le cas du bien-être des animaux et du commerce de la viande. Et donc, on est dans un domaine beaucoup, beaucoup plus délicat, en dehors du fait, par exemple, que, et c'est à mon avis ce que les auteurs du fameuse négociation transatlantique ont mal évalué quand ils ont lancé cette négociation, d'où ces problèmes actuels, on pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez, en dehors du fait que, d'abord, la convergence réglementaire, quelles qu'en soient les modalités, techniquement assez complexe, n'est plus entre les mains des négociateurs commerciaux. Ce ne sont pas des négociateurs commerciaux qui vont dire « je te prends ma norme, tu prends ma norme sur les briquets et moi je prends ta norme sur les jouets ». Absurde. Ça marche pas du tout, parce que faut qu'on ait le même niveau de sécurité des jouets et des briquets des deux côtés. Et donc ce ne sont plus les négociateurs commerciaux. Et plus important encore, ça n'est plus une négociation. Il n'y a pas d'échange de concessions. C'est une discussion de convergence réglementaire. On n'échange pas quelque chose. Alors, il peut y avoir des nuances à ça, selon qu'on parle d'harmonisation ou de reconnaissance mutuelle, mais disons, ne rentrons pas trop dans les détails. Et d'ailleurs, si on donne l'impression qu'on négocie la précaution, il arrive ce qui est arrivé en Allemagne avec cette fameuse discussion transatlantique, c'est-à-dire que l'opinion allemande est à 70% contre la négociation transatlantique. Ce qui est étrange, l'Allemagne n'étant pas un pays protectionniste, comme chacun sait. Ça n'est pas un pays protectionniste, et donc, dans le vieux monde, il n'y a pas de problème, mais c'est un pays précautionniste. Et dès lors que la Commission européenne et les Américains ont, dans la manière dont ils ont présenté cette affaire, ont donné l'impression qu'on allait négocier la précaution, autrement dit que l'ouverture des échanges allait se faire possiblement au prix d'une diminution de la précaution, alors l'opinion publique est allée contre. Et c'est beaucoup plus violent sur le plan politique que dans l'ancien monde. Dans l'ancien monde, bien sûr que les producteurs de t-shirts n'étaient pas très contents quand on baissait les droits de douane sur les t-shirts et que les Chinois en profitaient. Mais dans le consommateur, lui, il y en a beaucoup, il trouvait que c'était bien. Donc, si vous voulez, moi, négociateur tarifaire, j'avais un problème avec les producteurs, mais j'avais quand même les consommateurs avec moi. Et si on s'y prend bien, ça aide. Dans le domaine de la précaution, c'est l'inverse. Moi, voulant aller vers la convergence de la précaution, je vais avoir les producteurs avec moi, parce qu'ils vont être alléchés par l'idée qu'avec le même standard de précaution, ils vont faire des économies d'échelle. Et il y en a beaucoup, beaucoup à faire, parce que le 20% que je citais tout à l'heure, c'est beaucoup quand même. Mais je risque d'avoir les consommateurs contre moi. Ou en tout cas les organisations de consommateurs, dont la raison d'être est d'expliquer à leurs troupes que si elles n'étaient pas là, le monde serait plus dangereux que si elles étaient là. Donc on est dans un domaine très 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 différent. Et d'ailleurs on a connu, si je puis dire, nous Européens avons connu ça pas mal. Et on continue à le connaître quand on est passé du marché commun au marché intérieur. Hein, quand on a lancé avec Delors le marché intérieur en 85 pour 92, l'Europe était un marché commun, une zone de libre-échange. Mais la convergence réglementaire était extrêmement limitée. Et donc le marché intérieur, ça a consisté à superposer à l'ouverture des échanges, au sens vieux monde que j'indiquais tout à l'heure, une convergence en matière de normes, de standards, de telle sorte à ce qu'on ait un terrain égalisé du point de vue de la précaution. Alors évidemment, ceci pose des problèmes assez redoutables au système OMC, au droit commercial international, parce que ce que j'ai dit tout à l'heure de l'efficacité, de la primauté, de la sophistication de ce système dans le monde de la protection ne vaut pas forcément dans le monde de la précaution. Pour plein de raisons. La première étant que c'est beaucoup plus difficile de faire du multilatéral dans la précaution que ça ne l'est dans la protection. Beaucoup plus difficile. Parce que les régulateurs multilatéraux de la précaution, il y en a très peu. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. Et surtout parce que le niveau de la précaution, et il s'agit à la fois du niveau de la précaution et de l'administration de ce niveau de la précaution, si je suis producteur, je vais faire aussi attention à l'un qu'à l'autre, ces niveaux sont en fait déterminés par ceux qui ont le niveau de précaution le plus élevé. Et c'est en ce sens, d'ailleurs, qu'un accord entre les États-Unis et l'Europe sur, disons, une certaine convergence réglementaire en matière de précaution fait beaucoup de sens, parce qu'à ce moment-là, ça devient la norme mondiale. Alors, dans ce nouveau monde, le multilatéral est beaucoup moins évident. Ce ne sont plus les négociateurs commerciaux, ce ne sont plus des échanges de concessions, donc tout ce qu'il y avait de droit international classique dans l'administration des règles de la protection perd beaucoup de sa valeur. Et par contre, on rentre sur des choses qui sont, en quelque sorte, beaucoup plus directement en lien avec les préférences collectives de différents pays, voire même de différentes civilisations. Et ça, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué. On en a eu d'ailleurs un exemple précurseur, assez cocasse. Dans la dernière année où j'étais DG de l'OMC, on a eu un contentieux entre les Européens et les Canadiens et les Norvégiens sur un problème pas fondamental, mais assez représentatif de ce que je disais tout à l'heure sur le risque d'attirer à l'OMC des contentieux dont la pertinence commerciale n'est pas très forte, les Européens ont interdit l'importation de viande et de fourrure de bébés phoques. pour une raison qui est que, à la télé, comme chacun sait, tuer des bébés phoques, ça fait des images épouvantables. Vous avez du sang partout sur cette jolie neige et glace immaculée. Et tous les organisateurs activistes de bien-être des animaux en Europe se sont mobilisés pour dire, non, on peut pas. Le point de vue des Inuits étant plutôt différent, eux, ils considèrent qu'ils font ça depuis des siècles, dans des conditions écologiques tout à fait normales, parce qu'ils vont pas en tuer plus qu'il n'en faut, parce qu'ils savent bien que s'ils en tuent trop, ils n'auront plus de quoi faire. Ils font ça de manière assez naturelle. Et ils ont estimé que qui étaient ces Européens pour interdire le commerce de ce qui fait leur gagne-pain. Quand j'étais DG de l'OMC, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire en sorte que ce problème délicat n'atterrisse pas en mécanisme de règlement différent, parce que c'est un peu perdant-perdant hein, pour une institution comme l'OMC. Soit vous donnez raison aux Inuits, hein, et à ce moment-là, tous les activistes du bien-être des animaux vous considèrent comme un atroce personnage, y compris l'institution OMC. Soit c'est l'inverse, et à ce moment-là, vous dites, ah, vraiment, là, on peut ériger des obstacles aux échanges à la tête du client. Bon, il se trouve que, comme d'habitude, les juges, dans ce cas-là, sont assez malins, et ils ont trouvé quelques raisons de ne pas se prononcer trop sur la substance, en trouvant d'autres motifs de renvoyer chacun dans son camp. Mais je prends cet exemple parce que c'est vers des questions de ce type qu'on va. Et là, il va falloir que le droit commercial international intègre ses préférences collectives de manière beaucoup plus profonde. Au fond, dans l'ancien monde, on pouvait vivre les uns à côté des autres sans que ces questions de valeurs, de culture, de normes, en ce qu'elles sont liées à des préférences collectives, ça allait assez bien. Maintenant, l'échange s'approfondissant, la globalisation s'accélérant, nous allons devoir traiter ces questions parce que, encore une fois, du côté du 5%, il ne reste plus grand-chose. Dans 10 ou 20 ans, ce sera peut-être 1% ou 2%, mais du côté du 20%, il reste beaucoup. Et le fonctionnement du capitalisme de marché globalisé, qu'on le trouve bien ou pas bien, ça consiste quand même à générer ces effets d'efficience et donc à réduire ces différences. Et pour réduire ces différences, il va falloir aller plus loin dans l'intégration normative et donc dans le droit du commerce international avec, et j'ai essayé de le dire brièvement, avec des dangers. Parce que c'est quand même beaucoup plus intrusif de déterminer quelle est la bonne manière de tuer des animaux quand on en mange la viande, ce qui est le cas pour pas mal d'endroits sur cette planète, que ça n'est le cas de déterminer quel est le bon droit de douane sur la ferraille ou sur les vélos. Après tout, ça, c'est assez neutre, encore une fois, idéologiquement. Et donc, il faut s'apprêter à l'essence des exemptions. Et sur ce point que je conclurai, par deux, trois observations. La première, évidemment, pour tout esprit non juriste ou non économiste, une question qui se pose, c'est pourquoi, au fond, est-ce que c'est dans le domaine de l'échange international que le droit international a dû aller le plus loin? Pourquoi? Pourquoi ce privilège, en quelque sorte? Ma réponse à cette question, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne, mais celle à laquelle je suis arrivé en observant la pratique, c'est que une régulation correcte de l'échange commercial international est plus essentielle au bon fonctionnement du capitalisme de marché que d'autres régulations. Comme par exemple les droits de l'homme. Très important, les droits de l'homme, au plan international. Mais au fond, si les droits de l'homme sont violés ou atteints à tel ou tel endroit, ça n'a pas, du point de vue du fonctionnement du capitalisme de marché globalisé, ça n'a pas les mêmes conséquences. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on est dans un domaine où le droit est tout à fait du domaine des superstructures. Pour employer un langage qu'on emploie moins aujourd'hui, mais dans l'échange international, ce sont les infrastructures qui sont les plus déterminantes. Dans les vagues de globalisation qu'on a connues au cours de l'histoire, ce sont des sauts technologiques qui ont, en général, révolutionné les modes de transport et qui, donc, ont eu une influence considérable sur l'échange international, sur la division internationale du travail. Et donc, il faut bien être conscient du fait que c'est ça qui continue à dominer. La régulation, le droit, la norme a son importance, mais dans ce domaine-là, elle est probablement plus accessoire qu'ailleurs. Et enfin, pour dire que, si j'ai raison dans la projection que je fais de ces questions d'échange international dans l'avenir, nous allons devoir nous accoutumer, encore une fois, à une intégration normative plus forte, plus intrusive, plus compliquée que ça n'était le cas dans le passé, avec une espèce de continuum entre du droit national, domestique, et ce droit international, ce que Badi appelle du droit intersocial par opposition au droit international. Comme si, au fond, il s'agissait de constituer, du point de vue juridique et du point de vue de la création, de l'usage, de la surveillance, de la mise en œuvre de la norme du droit, une espèce de société globale qui ne soit plus compartimentée par les murs, en quelque sorte idéologiques, que permettait de garder le système westphalien. Je crois qu'il faut s'apprêter à aller dans cette direction et je crois qu'il faut regarder de près comment ce continuum se tisse peu à peu, parce que il en va de la légitimité du processus de globalisation. Et comme chacun sait, ça n'est pas une question neutre sur le plan politique. Merci de votre attention.
Je vous remercie beaucoup. Nous allons passer maintenant au stade des questions, si vous permettez. Et je donne dès d'abord la parole au professeur Delvolvé.
Merci, monsieur le président. Le très riche exposé que nous venons d'entendre provoque chez au moins les quelques juristes que sont certains d'entre nous des réactions, en tout cas rappelle un certain nombre de notions auxquelles nous sommes habitués. Et je crois que vous avez mis en évidence les transformations de la société internationale dans le domaine juridique avec les trois objets auxquels nous sommes habitués, la source du droit, le contenu du droit et la sanction du droit. Et les derniers développements que vous avez eus montrent l'importance des transformations en cours et elles ne sont pas finies. Et s'agissant de la sanction du droit, vous avez marqué un certain pessimisme au début de votre exposé en soulignant que finalement il n'y avait pas de sanction qui puisse s'imposer à un État qui ne respecterait pas une décision de justice rendue contre lui. Nous avons déjà eu d'ailleurs un écho de ces propos la semaine dernière à propos des arrêts rendus par la Cour internationale de justice. Et dans des systèmes comme ceux de l'Union européenne avec la Cour de justice que vous connaissez bien, vous l'avez pratiqué, ou de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des mécanismes qui permettent de garantir l'effectivité des décisions qui ont été rendues, les actions de manquement sur manquement pour la Cour de justice, l'action du comité des ministres dans le cadre du Conseil de l'Europe. Il me semble qu'il y a des éléments qui pourraient se développer dans le cadre de l'OMC. Mais vous avez évoqué une sanction. Celle, en disant que ce n'est pas une sanction parce qu'on n'a pas voulu employer le mot. Le rééquilibrage. Un État non satisfait de l'exécution d'une décision, ayant en contrepartie la possibilité de ne pas appliquer ses propres engagements. C'est une sanction classique que nous appelons en latin l'exception non ad impleti contractus et en bon français l'exception d'inexécution. Une partie qui n'est pas satisfaite de l'exécution d'un contrat par l'autre ne va pas exécuter tout ou partie de ses propres obligations. Donc, il y a des éléments nouveaux, mais il y a des éléments classiques, me semble-t-il, dans le système que vous avez décrit. La question, puisque c'est une question que je dois poser, monsieur le président, et j'y viens, La question concerne les rapports de droit. Rapports de droit entre le droit de l'OMC et deux sortes de droits que je crois pouvoir identifier comme relevant du droit public dans un cas, du droit privé dans l'autre. Du droit public. Vous avez évoqué l'Union européenne et je voudrais savoir si l'on peut préciser un peu plus avant les relations qui existent entre le droit de l'OMC et le droit de l'Union européenne, entre l'OMC et l'Union européenne. Et puis vous avez parlé des traités bilatéraux, multilatéraux en matière commerciale, le traité transatlantique en cours de discussion. Quels sont les rapports entre le droit de l'OMC et ce type de traité? J'en viens maintenant, c'est mon dernier point, Monsieur le Président, à ce qui relève du droit privé. La lex mercatoria, c'est ce droit assez informel, mais qui est au cœur des relations commerciales d'entreprise à entreprise, qui est au cœur du système de l'arbitrage commercial international, et j'aimerais savoir quelles sont les relations qui peuvent exister entre le droit de l'OMC et la lex mercatoria.
Eh bien, voilà un menu auquel je vous invite à répondre aussi brièvement que vous
voilà,
le pourrez.
Je vais répondre trop brièvement sûrement, compte tenu des montagnes de questions que ceci soulève. D'abord pour dire que, et là, Mireille Desmas-Marty se souviendra de controverses que j'ai eues avec mon bon ami Alain Pellet, peut-être Gilles Merguillaume s'en souvient-il aussi, à mes yeux, le droit communautaire n'est pas du droit international. C'est un droit spécifique, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'appelle liquide par rapport au gazeux du droit international. Et donc, vous avez raison, il est beaucoup plus effectif, mais il est effectif parce qu'il est communautaire, et il est communautaire parce qu'il est effectif. Deuxièmement, vous avez parfaitement raison, la Convention de Vienne autorise les États signataires de traités que leurs co-signataires n'appliquent pas à s'autoriser de l'exception d'inexécution. Dans le cas de l'OMC, ce qui fait la différence, c'est que ceci est le résultat d'un processus juridictionnel. Il y a un procès dans lequel des parties s'opposent, et il y a un juge qui dit un tel a raison, un tel a tort, et celui qui a tort doit obtempérer. Alors, sur votre question, droit de l'OMC et droit de l'Union européenne, c'est très simple. En matière de commerce international, et à l'OMC, en très très gros, mais sauf détail, l'Union européenne est un souverain. En tant qu'Union européenne, parce que la politique commerciale de l'Union est fédéralisée, parce que l'Union européenne a commencé comme un marché commun, et que le marché commun a commencé comme une union douanière, à l'époque où l'essentiel des obstacles à l'échange était des droits de douane. En devenant un espace de régulation dans beaucoup d'autres domaines que les droits de douane du point de vue de l'échange international, et notamment dans la précaution, l'Union européenne s'est en quelque sorte constituée de petit à petit en souverain de plus en plus important, et comme il y a les mêmes normes dans bien des domaines, donc il y a les mêmes relations entre l'Union européenne et l'OMC qu'il y a entre les États-Unis et l'OMC, ou le Sri Lanka et l'OMC. Alors, on pourrait nuancer en disant que les États membres de l'OMC demeurent... de l'Union européenne demeure membre à titre individuel pour un certain nombre de raisons, mais la réalité, elle est que l'Union européenne est un animal souverain sur la scène du droit commercial international. Droit de l'OMC et la négociation transatlantique, cette discussion transatlantique, qu'on appelle le TTIP, porte à 20% sur la protection et à 80% sur la précaution. Si cet accord aboutit, on devra passer devant l'OMC, c'est d'ailleurs une bénédiction parfois un peu théorique, pour assurer que les préférences que s'accorderont les États-Unis et l'Europe, et ils consisteront en gros à mettre les droits de douane à zéro, parce que pour l'instant, en moyenne, ils doivent être à 1 ou 2%, un peu des trucs en matière agricole, en matière de céramique d'assez spéciaux aux États-Unis, de textiles, de chaussures. Bon. Donc ça, c'est comme quand l'Union européenne a conclu un accord de libre-échange avec la Corée ou avec l'Égypte, et quand les États-Unis ont conclu un accord de libre-échange avec Panama. Ouais, bon. En matière de précaution, c'est plus compliqué parce que, encore une fois, dans ce domaine, le droit multilatéral, la règle multilatérale est beaucoup moins constituée. Alors, il y a deux accords à l'OMC qui portent sur la précaution, un qui s'appelle l'accord sur les barrières techniques au commerce, un autre qui s'appelle l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, mais ces accords ne prescrivent pas de précaution. Ces accords, en gros, expliquent que dans quelle mesure vous pouvez recourir à la précaution pour établir un obstacle à l'échange. Autrement dit, pour faire bref, ces accords administrent la zone grise inévitable entre précaution et protection. Ça peut être tentant de manipuler la précaution à des fins de protection. Si vous voulez exporter des locomotives en Russie, vous ne pourrez pas, parce que les standards de sécurité des locomotives russes sont ainsi faits que seules les locomotives russes peuvent matcher les standards en question. Et on peut être tenté d'aller dans cette direction, et d'ailleurs le monde agroalimentaire ne s'en est pas privé pendant bien des raisons. Une des raisons pour lesquelles on ne peut pas exporter de poulet aux États-Unis, ni nous, des États-Unis chez nous, ou pour lesquelles les Américains n'importent pas de pommes européennes, sont des raisons phytosanitaires. Bon, pendant des années, l'Australie et la Nouvelle-Zélande n'ont pas pu échanger de pommes jusqu'à ce qu'un contentieux à l'OMC oblige l'Australie à importer des pommes néo-zélandaises parce que, soi-disant, il y avait je ne sais trop quel animal dedans. Bon. Donc, tout ceci est aujourd'hui pas normé par l'OMC. Il y a des principes selon lesquels vous ne pouvez pas abuser de la précaution pour faire de la protection, mais ça ne va pas vous dire quel est le niveau de pesticide ou si l'animal en question, cet insecte qu'on trouve dans les pommes, est effectivement dommageable ou non. Enfin, sur la Lex Mercatoria, le droit de l'OMC et de la Lex Mercatoria sont complètement distincts. La Lex Mercatoria, c'est entre marchands. Le droit de l'OMC, il est entre souverains. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les souverains qui sont marchands. Ni d'ailleurs, en général, les marchands qui sont souverains, encore qu'on puisse, du point de vue de l'histoire et du fonctionnement du système international, on peut se poser des questions sur ce point, mais ce sont des choses tout à fait séparées. Et dans la mesure où l'OMC recourt à l'arbitrage, l'arbitrage à l'OMC n'est qu'un appendice du contentieux. Il y a des arbitrages, j'ai moi-même mis fin à la guerre de la banane, que j'avais contribué à initier dans les années 90, quand j'étais directeur du cabinet de Delors, quand on a fait le marché intérieur et qu'on a mis un tarif extérieur commun sur la banane, ce qui n'était pas le cas avant le marché intérieur. Donc pendant 20 ans, j'ai suivi la guerre de la banane, je l'ai initié, je l'ai géré, et j'ai arbitré la fin de cette guerre, mais au titre des bons offices que les États-nations souverains de l'OMC peuvent confier au directeur général de l'OMC. Mais c'est un appendice du contentieux. Et donc, ça n'est pas, ce sont deux domaines tout à fait distincts.
Merci de cette longue réponse à cette longue question. Et compte tenu du nombre de questions que j'ai, je vais demander aux orateurs qui suivent et à vous-même d'être un peu plus bref si on le peut. Monsieur Gattaz.
Oui, Monsieur le Président, on va passer peut-être à une phase gazeuse, encore que vous savez qu'on peut passer de la phase solide à la phase gazeuse directement par un phénomène bien connu qui s'appelle la caléfaction. Alors, votre phase gazeuse, je vais vous rappeler, vous avez parlé du GATT. Le GATT va être très cher, parce que je suis beaucoup occupé, vous le savez, quand, avec M. Delors, lorsque les Américains en 82-83 nous ont attaqués en disant que les Français ne connaissaient pas le GATT. M. Larger se souvient de ça. Et le sénateur Mathias était venu à Paris faire tout un cinéma pour dire que les Français ne connaissent pas le GATT, ils ne savent pas ce que c'est que le GATT. Et M. Delors, on l'avait reçu et nous avions décidé d'aller faire une délégation Washington pour leur parler du GATT, et j'ai commencé la réunion devant l'aréopage gouvernemental américain en disant, avec mon patronyme Gattaz, je suis le seul français à connaître le GATT de A à Z. Une mauvaise joke, qui les a bien fait rire, ce qui prouve que c'était pas si mauvais que ça. Et tous les Américains s'en sont souvenus, m'en ont longtemps parlé, et du coup, ils ont pu attaquer sur l'ignorance du GATT. Alors, le GATT est venu plus tard, l'OMC. Les entreprises ont beaucoup travaillé avec l'OMC, et comme d'habitude, les entreprises françaises ont toujours regretté les contraintes créées, les contraintes juridiques, dont vous avez très bien parlé tout à l'heure, qui ont été créées par l'OMC, mais les entreprises sont ainsi faites qu'elles voudraient une liberté totale pour leurs initiatives, tout en sachant que le gendarme est bien nécessaire pour éviter les excès de vitesse et surtout les attitudes délictueuses. Alors ma question est tout à fait particulière. Elle ne traitera pas de droit, puisque mes confrères juristes sont là pour ça. On a beaucoup parlé du climat ces derniers temps, et la COP21 a été éclatante, et les entreprises mondiales, y compris les entreprises françaises, sont aujourd'hui concernées. Il y a non seulement la concurrence dont vous avez parlé, il y a de la surenchère, il y aura même peut-être des manœuvres. Et je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que l'OMC se sent concerné par ces problèmes de climat, et quel rôle il peut jouer actuellement dans le monde sur ce sujet-là?
Je vous remercie. Je vous en prie.
Bon, réponse. Est-ce que l'OMC se préoccupe du climat? Oui, puisque le préambule de l'OMC, de celui de 1994, est assez récent pour que la question du développement soutenable ait été d'actualité dans des normes préambulaires d'accords internationaux. Et donc le préambule de l'OMC vise explicitement la contribution de développement de l'échange international au développement durable, comme il vise l'emploi, les conditions sociales, etc. Réponse oui. Le lien est fait. Il est fait de manière, dans l'économie, puisque une des vertus de l'ouverture de l'échange international, c'est un usage plus efficient des facteurs de production, et donc des ressources rares, et donc des ressources naturelles. Donc la division internationale du travail doit aboutir à un usage plus efficient de ces ressources, sous évidemment une condition que les économistes connaissent bien, et qui est que les externalités qui sont associées à l'usage de ces ressources soient correctement reflétées dans les prix. Or, chacun sait que ça n'est pas le cas. Tous les économistes vous diront que la solution au problème du changement climatique est très simple. Il suffit de mettre le prix de la tonne de CO2 au niveau du dommage que l'émission de CO2 crée dans les couches atmosphériques. Et à ce moment-là, le problème est réglé, puisque les mécanismes de marché vont automatiquement s'ajuster et intégrer ce prix. La réalité étant sensiblement différente, nous savons que l'idée d'un prix mondial du carbone, qui serait la solution théorique au changement climatique, c'est pas pour demain, même si la COP21 a, je crois, fait un pas important dans cette direction, et si beaucoup d'entre nous, moi y compris d'ailleurs, travaillons pas mal sur la question de savoir comment on peut améliorer l'efficacité de ce qui existe comme marché du carbone, de telle sorte que le prix soit pas à 5 euros d'un côté et 80 de l'autre, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, il y a une manière d'utiliser l'échange international au service du développement soutenable, qui est, encore une fois, de pricer correctement ces externalités, étant entendu que, du point de vue du droit, et je reviens sur le centre du sujet, l'organe d'appel de l'OMC a de plus en plus interprété le droit de l'OMC à la lumière d'obligations qui ressortent du développement soutenable. Il y a eu notamment une évolution importante de la jurisprudence depuis 1994 sur une question très technique qui s'appelle les PPM, Process and Production Methods, qui fait que la capacité que vous avez de discriminer entre deux biens ou deux services selon qu'ils ont ou non un impact plus ou moins favorable sur l'environnement est maintenant reconnu. Alors que, au départ, dans les règles OMC, c'était la règle des produits similaires, et vous ne pouviez pas, par exemple, taxer séparément, différemment, une pile électrique qui avait un bon effet sur l'environnement, et puis une pile électrique qui avait un mauvais effet sur l'environnement. Donc ces choses-là sont en train de converger, et comme d'habitude dans le système international, plus il y aura de convergence en termes normatifs dans le domaine de l'environnement, et plus l'OMC, en tant que système juridique vivant dans le bain du système international, devra l'intégrer. Et donc c'est une synergie qui est tout à fait possible. J'ajoute, pour faire bonne mesure, que cette idée est fréquemment répandue que l'échange international, c'est mauvais pour le changement climatique et notamment pour les émissions de CO2, parce que transporter des bouts de crayon du Japon au Kenya, ça fait pas de sens. Cette idée fréquemment répandue n'est pas vérifiée dans la réalité pour une raison simple, qui est que en gros 90% du commerce mondial est transporté par mer et que le transport par mer est le moins émetteur de CO2, même s'il y a quelques autres gaz à effet de serre.
Je vous remercie. Monsieur de la Rosière.
Merci. Vous avez dit que les droits de douane étaient maintenant relativement faibles, autour de 5% en termes moyens pondérés. Et la question que j'ai est la suivante. Le monde qui a quitté le système de Bretton Woods il y a déjà plusieurs décennies est un monde de change très variable. Et je me disais, en tant que directeur général de l'OMC, quelle est votre réaction à cette possibilité de voir des monnaies très importantes s'apprécier ou se déprécier jusqu'à 10%, si vous voulez, alors que vous avez tellement travaillé pour ramener les 20 ou 30% de droits de douane à 5%.
Bon, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand vous regardez les textes de l'OMC et ceux du FMI, et ceux de l'OMC dans ce domaine sont ceux du GATT, qui a été créé, qui a vu le jour à peu près au même moment que le FMI, même si c'est sous une forme moins constituée, puisqu'il a fallu attendre 1994 pour que l'OMC devienne une vraie organisation internationale. Les textes qu'il y a sur cette question du change viennent d'un temps où l'échange était fixe, y compris d'ailleurs les dispositifs qui figurent dans les accords du GATT et dans ceux du FMI sur la coopération entre le GATT et le FMI. Il y a des accords très précis sur ce point. Alors évidemment, quand on est sorti des autres changes fixes, ça a pris une allure un peu différente. Et la question d'ailleurs de savoir comment on devrait aujourd'hui interpréter ces dispositions en régime de taux de change flexible est juridiquement assez trapu. Bon, ça n'a jamais été testé, puisqu'il n'y a jamais eu de contentieux sur ce point. Mais bon, si un jour un État va devant le tribunal de l'OMC pour dire « tel autre manipule sa monnaie », à des fins de protection ou à des fins de dumping, sera compliqué. Ça n'est pas arrivé jusqu'à présent, et la raison principale pour laquelle ça n'est pas arrivé jusqu'à présent, et on y a travaillé, ça fait partie des sujets que les États membres de l'OMC regardent régulièrement, c'est qu'au fond, les déterminants de la compétitivité, ce qui compte, c'est le moyen-long terme. Et de ce point de vue-là, le change n'est pas essentiel. Surtout, si vous regardez l'indicateur qu'il faut regarder, qui n'est pas le taux de change nominal, mais le taux de change réel, pondéré par la provenance et la nature des échanges. Hein. Si vous prenez par exemple le renminbi jusqu'à une date récente, le renminbi, dont on sait qu'il a fait l'objet de polémiques en disant que les Chinois manipulaient leur monnaie dans tel sens ou dans tel sens, par rapport au dollar ou à l'euro, sur 30 ans, en taux réel moyen pondéré par les échanges, le renminbi est aussi stable que l'euro ou le dollar. Bon. Et donc, à court terme, ça peut avoir une influence. Généralement, ça s'ajuste soit par parce que les entreprises changent leur comportement de marge, soit parce qu'il y a des techniques de hedging qui existent, même si elles sont coûteuses à certains égards. Mais en gros, si vous voulez, c'est cette, aux yeux des gens qui régulent le commerce international, j'emploie cette expression en sachant que Jacques de La Rosière va la trouver un peu triviale, mais la relation entre une économie et sa monnaie, c'est un peu comme la relation entre vous et votre chien quand vous le promenez. C'est-à-dire, vous partez toujours ensemble, pendant la balade, des fois le chien est devant et des fois il est derrière, mais vous revenez toujours ensemble aussi. Et donc c'est de cette nature, et les questions conjoncturelles ont moins d'importance.
Merci. Monsieur Casanova.
Monsieur le Président, j'aurai une considération brève et deux questions. La considération brève, je crois qu'il mérite d'être soulignée, c'est qu'il y a peu de domaines dans lesquels il y a une aussi étroite relation entre la découverte d'une idée et une réalisation historique. Quand Adam Smith, à la fin du XVIIIe siècle, a dit il y a une variable essentielle, c'est le progrès technique qui, déterminant les prix relatifs, conditionne l'échange. Et qu'ensuite, il a dit, à partir du moment où l'espace économique et l'espace politique diffèrent, l'espace politique doit s'adapter. Ce qui a été dit à la fin du XVIIIe siècle a été entièrement confirmé par ce qu'a fait le GATT et l'OMC en 60 à 70 ans. Mes deux questions sont d'ordre de la sont liées à la négociation politique par rapport à ce que vous avez appelé l'uniformisation des règles. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce qu'on peut faire une typologie des résistances? Par exemple, je suis impressionné par la persistance des résistances techniques qui ne reposent pas sur l'opinion. Prenons l'exemple du phare jaune. Pendant 70 ans, l'administration française a déclaré que le jaune était plus clair que le blanc. Et puis quand les consommateurs français ont eu le libre choix, le jaune a été éliminé en pratiquement un an. Et tout le monde a circulé avec des phares jaunes. Donc, des phares blancs, pardon. Il y a le problème des prises électriques aujourd'hui. Pourquoi les prises électriques ne sont-elles pas uniformes? C'est pas l'opinion qui réclame l'uniformité, la différenciation des prises électriques. C'est manifestement une résistance bureaucratique ou technocratique qui est difficile à comprendre. Donc, où sont vos pôles de résistance? Et ma deuxième question concerne le modèle de négociation. Est-ce qu'il vaut mieux procéder par une grande négociation collective ou au contraire procéder par des accords différenciés? Est-ce que, par exemple, l'accord européano-américain n'est-il pas décisif pour l'avenir en ce fait qu'à partir du moment où il y a un accord entre les États-Unis et l'Europe, les autres seront obligés de choisir, compte tenu du poids relatif que représentent États-Unis plus Europe? Je vois pas comment les pays asiatiques ne feraient pas purement et simplement autre chose que de s'adapter. Donc, est-ce qu'il ne faut pas chercher la voie des accords dualistes, disons, plutôt que les conférences internationales où on est obligé de s'occuper de la vie de petits ou de tels pays?
Bon, sur le premier point, il y a effectivement, disons, des forces qui jouent dans des sens différents. L'expérience prouvant que c'est lorsque les producteurs de biens et de services réalisent l'avantage qu'ils auraient à faire les économies d'échelle qui résultent de l'harmonisation, que ça déclenche. Étant entendu qu'il y a toujours des résistances, comme il y a dans tous les changements, d'autant qu'un certain nombre de ces changements ont des coûts. Il est probable que passer des phares jaunes aux phares blancs sur 5 ans ou sur quelques années, c'est pas forcément un problème. S'il fallait changer toutes les prises électriques du jour au lendemain, ce serait un peu plus compliqué. Mais vous avez raison, ce sont souvent des choses très techniques et très complexes. Quand j'étais commissaire européen, j'ai voulu lancer avec mon collègue Zolik, qui était le représentant commercial américain à l'époque, un exemple de coopération réglementaire. C'était bien après TTIP, et on a choisi un domaine qui était l'harmonisation des équipements de sécurité sur les bateaux de loisirs. Parce que quand vous avez réussi aux États-Unis, il est de bon ton de s'acheter un yacht européen, et quand vous avez réussi en Europe, il est de bon ton de s'acheter un yacht américain. Comme ça c'est le charme de la division internationale du travail, du point de vue du consommateur. Et simplement, si vous achetez un yacht américain, il faut le refitter aux normes européennes, et vice-versa. Et donc on avait trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Et son ami, et nous étions d'ailleurs tous les deux dans d'autres fonctions quand c'est arrivé, ça n'a mis que 11 ans pour que les Américains et les Européens se mettent d'accord sur la couleur des fusées de détresse. Parce que pour des gens comme vous et moi, une fusée de détresse, c'est rouge. Mais pour les techniciens, rouge, ça n'existe pas, c'est une gamme de fréquences. Et il se trouvait que la gamme de fréquences qui définissait le rouge pour les techniciens américains était différente de la gamme de fréquences qui définissait le rouge pour les Européens, parce que les tests qu'ils font d'un rouge qui se voit ne donnaient pas tout à fait le même résultat. Peut-être est-ce que le ciel de Floride l'été n'est pas tout à fait celui de la Méditerranée. Et une fois cette différence constatée, l'essentiel de la négociation a consisté à savoir si cette réalité technique étant avérée, le résultat serait qu'on prendrait la gamme de fréquences qui est la somme des deux, ou si on prendrait la gamme de fréquences qui est l'interstice entre les deux. Grave question qui a mis beaucoup de temps à être réglée. Donc, on est vraiment dans des choses qui sont très très techniques, très très compliquées, et il faut le savoir. Sur le modèle de négociation, je crois que ça dépend vraiment des sujets. J'ai toujours dit, et de ce point de vue, j'ai parfois été critiqué quand j'étais DG de l'OMC, de ne pas défendre le temple du multilatéralisme avec son exclusivité. Moi, je suis très pragmatique dans ces domaines. Je suis comme les Chinois. L'ouverture de l'échange, ça consiste à réduire les obstacles à l'échange. Je crois aux vertus de l'ouverture des échanges, sous un certain nombre de conditions, dont beaucoup sont liées d'ailleurs aux politiques intérieures, à ce qu'on en fait. C'est pas un truc théorique. Et je pense que, quelle que soit la couleur du chat, de l'instant qu'il attrape des souris, c'est un bon chat. Et donc, que ce soit le multilatéral, le régional ou le bilatéral qui réduisent les obstacles aux échanges, que ce soit dans le domaine de la protection ou que ce soit dans le domaine de l'élimination ou de la réduction des différences dans la précaution, c'est une bonne manière de faire parce que ça ouvre les échanges. Et il y a des domaines comme celui de la précaution qu'on évoquait, où ce sera mieux fait et plus vite en bilatéral, étant entendu que je continue à penser que stratégiquement, il est de l'intérêt des Européens et des Américains de converger en matière de précaution, même si je suis de ceux qui pensent, et je le dis, que ça prendra beaucoup de temps. Merci. Cette idée que M. De Gourcq et M. Froman ont présenté au public quand ils ont lancé la négociation en disant « on va faire ça en 2 ans », c'est une idée absurde. C'est même politiquement inquiétant parce que soit ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, soit ils savaient de quoi ils parlaient, mais ils bernaient l'opinion. Le marché intérieur entre Européens, nous avons commencé il y a 30 ans, on a fait 80% du chemin en matière de biens, on a fait 40% du chemin en matière de services, en 30 ans. Donc l'idée qu'on allait faire en transatlantique une conversion, il s'agit d'ailleurs non pas d'une négociation d'un traité comme entre Aménophis et le roi de Chypre, il s'agit de mettre en place un processus de convergence réglementaire, ce qui, sur le plan politique, est compliqué, y compris sur le plan institutionnel. Mais s'il s'agit, par contre, de savoir si les Américains doivent ou non continuer à subventionner leurs producteurs de coton, ça va pas se faire en bilatéral. D'abord parce que ça pose des problèmes redoutables au Burkina Faso et au Niger, mais en bilatéral avec les États-Unis, le Burkina Faso et le Niger, ça peut pas faire grand-chose. Ça, ce sont des questions qui sont forcément multilatérales. S'il s'agit de réglementer le recours à l'antidumping, c'est du multilatéral. Vous n'allez pas avoir une procédure anti-dumping par pays, c'est impossible à administrer, il faut des règles communes, relativement transparentes, parce qu'il y a des intérêts, il y a des contentieux. Bon. Donc au fond, ça dépend des sujets. Il y a des sujets dans lesquels le bilatéral, c'est la bonne approche, il y a des sujets dans lesquels le régional, c'est la bonne approche, il y a des sujets dans lesquels le plurilatéral, c'est la bonne approche, et j'entends par plurilatéral quelque chose qui se fait, par exemple, à l'OMC, mais entre certains États membres de l'OMC et pas tous, comme par exemple l'accord sur les marchés publics. Bon, la géométrie peut être variable, encore une fois, peu importe la couleur du chat.
Je vous remercie. Monsieur Trichet.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, laissez-moi dire que l'exposé de Pascal Lamy était remarquable de clarté et de précision et que j'ai trouvé un grand plaisir. J'aurais voulu poser une question, mais c'est, je crois, une reformulation de ce que M. Devolvé a déjà demandé. Mais j'étais un petit peu surpris à un moment l'appréciation selon laquelle les règles sont réappréciées en permanence. Ça m'a laissé un tout petit peu perplexe. Peut-être a-t-on déjà répondu à cette question. Si c'est le cas, alors je ne demande pas à Pascal de recommencer. Alors, en revanche, là où je suis d'abord très reconnaissant, c'est le développement sur multilatéralisme, bilatéralisme ou régionalisme que tu viens de faire, parce que, effectivement, l'une de mes surprises était que je n'entendais pas dans la bouche de Pascal Lamy ce que j'entends dans toutes sortes de réunions internationales, à la fois une lamentation pour dire le multilatéralisme est mort de par la volonté des principaux partenaires, c'est une horreur absolue, on a tué le multilatéralisme et accessoirement l'OMC. Et je trouve que les raisonnements de Pascal Lamy sont très convaincants, notamment le changement de paradigme pour passer en quelque sorte de ce que tu appelles la protection à la précaution. Et donc je voulais te pousser un peu plus loin. Est-ce que réellement il est perdu pour l'OMC d'avoir une franchise fondamentale en matière de précaution? C'est-à-dire, faut-il réellement passer maintenant par le régionalisme ou le bilatéralisme pour arriver à déborder ensuite sur le monde entier via, évidemment, l'OMC? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir d'avoir un OMC qui serait un véritable lieu de négociation directe de la précaution?
Je vous remercie. C'est la question fondamentale.
Ouais, redoutable. D'abord, comme Jean-Claude a triché, en tout cas c'est ce que je crois comprendre de sa question, je pense de la mort du multilatéralisme ce que Mark Twain pensait de sa propre mort. L'annonce est sensiblement prématurée. Et je pense aussi d'ailleurs, y compris de l'OMC, si on regarde ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années, ce qui compte, c'est l'ouverture des échanges. Est-ce que les échanges sont plus ouverts aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 10 ans? Oui. Est-ce qu'ils étaient plus ouverts il y a 10 ans qu'il y a 20 ans? Oui. Donc, en gros, ça va dans la bonne direction. Et l'accord que l'OMC a passé à Bali à la fin 2013, qui avait été longuement préparé, j'ai quelques raisons de m'en souvenir, est un accord très important, parce que j'ai dit tout à l'heure que le droit de douane moyen, ça coûtait 5%, que la l'ajustement à différents niveaux de précaution, ça coûtait 20%, mais les frottements liés à ces réglementations, et notamment tout ce qui tourne autour des systèmes douaniers, c'est 10%. Et donc, en simplifiant les systèmes douaniers à Bali, en gros, en disant, on va passer de 10 à 5%. Donc, l'accord de Bali, qui est un accord incroyablement compliqué sur le plan bureaucratique, administratif, qui consiste à savoir si on peut harmoniser les déclarations d'importation et d'exportation. L'heureux effet de tout ça, c'est qu'en 10 ans, on va avoir le même effet sur l'échange international que si on mettait tous les droits de douane à zéro. Ce qui n'est pas rien. Et l'accord qui a été passé à Nairobi il y a quelques semaines, c'est pas quelque chose de fondamental, mais enfin, sur les subventions à l'exportation, c'est une bonne chose que d'avoir enfin mis fin aux subventions à l'exportation en matière agricole. C'est quelque chose qui pénalisait fortement un certain nombre de pays en développement. Et chacun sait que concourir avec le Trésor américain ou le Trésor européen, ça n'est pas toujours facile quand on est un PMA. Bon. Alors, sur l'administration de la précaution, ma réponse est qualifiée. D'abord parce que ça n'est pas à l'OMC qu'existe l'expertise sur la précaution. On négocie à l'OMC des niveaux de droits de douane ou des plafonds à des subventions, mais on ne va pas négocier à l'OMC quel est le bon niveau de maximum de pesticides dans les fleurs coupées ou la bonne dose de chlore dans un poulet qui finit son parcours de nettoyage bactériologique après avoir séjourné pendant quelques mois dans des cages dans lesquelles ils sont enfermés. Ça, c'est pas l'OMC qui va faire ça. Ce sont encore une fois des régulateurs. Alors, il y a des régulateurs internationaux dans certains cas, mais Il y a un office international de la santé animale, par exemple, dont le siège est à Paris, qui est une organisation très efficace et qui, en gros, définit parfaitement ce que c'est qu'une vache qui a la fièvre acheteuse et ce qui doit arriver quand une vache est détectée avoir la fièvre acheteuse dans la région, dans le continent. Bon. Il y a un Codex Alimentarius, qui est une filiale commune, enfin un processus commun à l'OMS, à la FAO. Et à l'Organisation mondiale de la santé, qui définit les standards de qualité de sanitaire des aliments, et qui dit combien on peut mettre de ceci ou de cela, du point de vue des produits chimiques, des conservateurs, etc. Mais, encore une fois, à supposer que ça se passe de manière multilatérale, ça ne se passera pas à l'OMC. Techniquement, ça ne se passera pas à l'OMC. Ça passera à l'ISO, ça se passera... Bon. Par contre, je pense que l'OMC, dans ce domaine, devrait être dotée d'un mandat, un peu comme elle l'a été pour gérer les préférences dans le monde de la protection, puisque ces préférences dérogeaient à la clause de la nation la plus favorisée, on a donné à l'OMC un mandat de surveiller la distribution de ces préférences. Dans la précaution, il n'y a plus de préférences. Ça, c'est une différence fondamentale avec le monde de la protection. La précaution, elle est MFN. Hein, on n'a pas un standard sanitaire différent selon l'origine du produit. Ce qui compte, c'est la santé de vos habitants, et vous l'administrez à votre frontière. Et donc, à mon avis, la bonne manière de résoudre la question, c'est de donner à l'OMC un mandat de monitoring, de surveillance, d'organisation de ces processus de convergence réglementaire, de telle sorte qu'ils n'aboutissent pas à des risques de discrimination excessive. Bon. Alors, il faut relativiser tout ça, parce que si je suis l'exportateur rwandais de fleurs, aujourd'hui, personne en Europe, aux États-Unis ou au Japon, ne m'a demandé mon avis sur quel est le bon niveau de pesticides que je dois respecter. On ne m'a jamais consulté. Les États-Unis, l'Europe et le Japon ont consulté leurs scientifiques, leurs médecins. Ils n'ont jamais demandé aux exportateurs ce qu'ils en pensaient. Donc c'est effectivement imposé. Là où c'est plus compliqué, et là où un mandat OMC ferait encore plus de sens, à mon avis, c'est que jusqu'à présent, j'ai raisonné pour les besoins de la simplicité. J'ai raisonné dans un monde où ces normes de précaution sont des normes publiques. Mais de plus en plus, ces normes de précaution sont des normes privées. Si Carrefour et Walmart se font concurrence sur le thème « je suis plus vert que toi et donc viens chez moi parce que je suis plus écolo que toi », Carrefour va établir une norme sur les résidus de pesticides pour les fleurs, qui va être plus rigoureuse que le standard normal, et Carrefour va dire « venez chez moi, mes fleurs sont plus bio, plus écolo que les vôtres ». Et si je suis exportateur de fleurs au Rwanda, cette norme va s'imposer à moi exactement comme une norme publique, parce que ou je match le standard Carrefour et je vends mes roses chez Carrefour, ou je le matche pas et je vends pas mes roses. Et donc, notamment parce que l'univers de la précaution est un univers plus privatisé que celui de la protection, il n'y a pas de droit de douane privé. Mais il y a des standards privés. Pour cette raison, il va falloir, à mon avis, disposer d'un système international qui va organiser cette convergence de la précaution. Et on n'en est pas là, même si, encore une fois, avec l'accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et avec l'accord sur les barrières techniques au commerce, il y a une espèce de base qui permettrait d'aller dans cette direction, mais ça reste à faire, et je pense d'ailleurs que la plupart des négociateurs commerciaux n'ont pas encore très bien compris ce passage de l'ancien monde au nouveau monde, et ils ont d'assez bonnes raisons de ne pas le comprendre, parce que leur rôle dans ce nouveau monde sera singulièrement rétréci.
Bon, merci. J'ai encore 4 orateurs. Madame Delmas-Marty.
Merci. Oui, il me semble que vous n'avez pas évoqué la question de l'incidence du droit de l'OMC sur les droits sociaux. Alors, est-ce que ça entre dans la question des préférences collectives ? Est-ce que ça entre dans le schéma général ? ou est-ce que c'est un peu différent? Parce que je me souviens, il me semble qu'il y a quelques années, il y avait eu la question de la clause sociale, de savoir si on allait intégrer la clause sociale. Et il me semble qu'à l'époque, l'OMC avait dit, mais ça relève de l'OIT, renvoyer la balle à l'Organisation internationale du travail. Le problème, c'est qu'il y a une symétrie qui est seulement apparente, parce que l'Organisation internationale du travail, elle est d'une part beaucoup plus ancienne que l'OMC, mais d'autre part, elle a beaucoup moins de pouvoir. On est encore dans l'international et on n'est pas dans le supranational. Et le résultat, c'est que l'intégration des normes OMC se fait beaucoup plus vite que l'intégration des normes OIT. Alors, est-ce que... Enfin, comment voyez-vous la question et les effets pervers éventuels, comment les résoudre, en quelque sorte?
C'est une affaire très, très compliquée, qui tient à la fois au fait que la régulation des standards sociaux est un exercice tout à fait différent de la régulation des droits de douane ou même de la précaution, et du fait que cette question met en jeu un problème fondamental du système westphalien, qui est la capacité, au nom de la souveraineté, des États membres de la communauté internationale de ne pas se comporter de manière cohérente. J'ai parfois défini la souveraineté comme le monopole de l'incohérence. C'est d'ailleurs le cas, si vous voulez bien considérer, que les États membres de l'OMC sont d'accord pour que l'OMC soit observateur à l'OIT, alors que les États membres de l'OIT ne sont pas d'accord pour que l'OIT soit observateur à l'OMC. Étant entendu que les États membres de l'OIT et de l'OMC sont les mêmes. Donc, et là, vous touchez aux limites de la fiction du système international cohérent, transparent, où la légitimité est transitive. Bon, c'est un bon exemple. Ce sont les mêmes. Alors, l'OIT dispose d'une capacité de régulation des standards sociaux, mais par la voie du plus petit commun dénominateur. Et l'OIT a, en théorie, si vous lisez la charte de l'OIT, y compris celle de 1919, l'OIT a les moyens d'administrer ces standards, y compris par un mécanisme de règlement des différends, qui n'a jamais été mis en œuvre. Et il n'a jamais été mis en œuvre, non pas que la charte de l'OIT ne le prévoit pas, mais parce que les membres de l'OIT n'ont jamais voulu aller jusqu'à ce degré de supranationalité qui est en germe dans la charte de l'OIT, dont il faut noter qu'elle a été la première des organisations internationales, enfin, disons, la première des grandes organisations internationales, si vous mettez de côté les postes et les télécoms, et qu'elle a été la seule, d'ailleurs, à être tripartite. Hein, ce que j'appelle aujourd'hui le polylatéralisme, par opposition au multilatéralisme, c'est-à-dire un système qui met en coalition, en interaction, non seulement des souverains, mais aussi le monde des entreprises et aussi le monde de la société civile, était en quelque sorte, a été celui de l'OIT. Et puis bon, les États-nations souverains ont probablement réalisé là que la percée était trop forte et ils n'ont jamais recommencé depuis. Il faut regarder ce qui s'est passé à la COP21 pour comprendre qu'on revient peut-être dans un système de ce type. Donc, il n'est pas exact, Mireille, que l'OIT ait moins de pouvoir que l'OMC. Ce qui est exact, c'est que les États membres de l'OIT, les États-nations souverains qui conduisent les affaires de l'OIT, n'ont pas le même niveau d'ambition en matière d'harmonisation des normes sociales qu'ils l'ont en matière d'harmonisation des normes commerciales. Et ça vient, c'est tout simplement du fait qu'encore une fois, il s'agit de réguler le capitalisme de marché, les droits des travailleurs, c'est important pour certains, ça l'est moins pour d'autres. L'ouverture des échanges et la capacité pour le capitalisme de marché de générer ses efficiences est quelque chose qui est, d'un certain point de vue, plus reconnu. Et les droits des travailleurs ne sont pas au niveau... dans la hiérarchie des normes internationales, ne sont pas au niveau où sont maintenant la santé et l'environnement. Parce que le caractère de bien public du bien-être social n'est pas le même que le caractère de bien public d'un environnement correct ou d'un état sanitaire correct de la population. On est dans des préférences collectives qui sont encore variables. Et le système westphalien autorise, organise la cohabitation de préférences collectives différentes, ce point de vue. Alors, mon raisonnement sur l'harmonisation de la précaution est que cette voie-là va probablement obliger à reposer des questions de ce type que jusqu'à présent on n'avait pas eu à poser, parce que franchement, et je ne veux pas faire de démagogie, mais si le capitalisme de marché globalisé est obligé de se mettre d'accord sur une norme de bien-être des animaux parce qu'on les mange, à un moment il faudra se poser la question de savoir ce qu'on fait pour les humains.
Bien, je vous remercie. Je remercie les deux de nos confrères qui viennent d'abandonner leurs questions. Et je passe la parole maintenant aux deux derniers. Monsieur Soutou.
Monsieur le Président, je vous remercie. Je serai tout à fait bref. Je voudrais vous soumettre deux adorables chatons, monsieur. Le premier, l'une des dispositions essentielles, si j'ai bien compris, du traité transatlantique, serait que les entreprises pourrait attaquer les États directement devant des tribunaux, je dirais, normaux. Et je réfère à ce que vous avez dit du fait que dans le cadre de l'OMC actuel, seuls les États peuvent attaquer, et quelles pourraient être les répercussions de cette novation sur ce statut-là. La deuxième question, il semblerait que certains envisagent de réduire un peu le droit de veto au sein de l'OMC, enfin le principe du consensus, en particulier trouvant que l'Inde a très souvent bloqué les choses lors des négociations en cours du cycle de Doha. Je serais très heureux, monsieur, d'avoir votre appréciation aussi sur cette question. Je vous remercie.
Si vous pouvez nous répondre brièvement.
Oui, bien sûr. Bon, sur le premier point, le recours direct des entreprises contre des États en matière d'investissement n'est pas une innovation. C'est le cas depuis très longtemps. Et notamment dans le cadre de dispositifs comme par exemple l'accord de libre-échange nord-américain, qui date lui aussi des années 90. Simplement, un, il n'y a pas de régime multilatéral en matière d'investissement, alors qu'il y a un régime commercial, pour des raisons qui tiennent au fait que les pays en développement s'y sont très longtemps opposés. Et deuxièmement, jusqu'à présent, jusqu'au traité de Lisbonne, la compétence communautaire qui existe en matière commerciale depuis le traité de Rome n'existait pas en matière d'investissement. Ça restait au niveau des compétences nationales, ça a été transféré au niveau européen avec le traité de Lisbonne. Et c'est la raison pour laquelle cette question d'un accord investissement qui ouvre le droit à des entreprises d'attaquer des États au cas où une entreprise ayant investi dans un pays considère que telle ou telle mesure de nature publique, réglementaire, législative que l'État prend laisse ses intérêts dans des conditions qui pourraient donner lieu à de dommagements, c'est ça le problème du recours. Et donc cette question est soulevée parce que dans la négociation transatlantique, on parle non seulement commerce mais aussi investissement. Et c'est une question compliquée à laquelle on peut répondre de deux manières. On peut se demander pourquoi les dispositifs normaux, contentieux normaux, ne suffiraient pas. Pourquoi, par exemple, en transatlantique, pourquoi est-ce qu'une entreprise européenne, si elle estime que le gouvernement américain a lésé ses intérêts, ne va pas devant les tribunaux américains, et vice-versa? La réponse à ça étant que on peut concevoir que les Européens n'aient pas forcément tout à fait confiance dans l'équanimité internationale du juge américain. J'essaie de dire ça de manière aussi diplomatique que possible, et éventuellement vice-versa. Okay. Donc, en gros, soit vous faites confiance à la justice américaine, et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'un dispositif spécifique, d'un canal contentieux spécifique qui permette aux entreprises européennes d'attaquer les États-Unis, soit vous ne faites pas confiance et vous êtes obligé d'avoir un dispositif de ce type pour égaliser les conditions juridiques du contentieux. Donc c'est une affaire assez redoutable, étant entendu qu'il est vrai, et la société civile a beaucoup milité en ce sens, que le fait qu'une entreprise puisse attaquer un État qui se comporterait mal vis-à-vis d'elle peut avoir un effet paralysant sur la capacité de cet État à réguler. qui est la grande critique qui a été faite, et c'est pas faux. Et d'ailleurs, si vous regardez les modèles récents d'accords d'investissement, et notamment l'accord entre les États, entre l'Europe et le Canada, il va nettement plus loin dans la prise en compte de ces questions, même s'il faudra, à mon avis, probablement l'ajuster encore un peu pour qu'il soit ratifié par le Parlement européen. Mais c'est ça, c'est du droit de l'investissement, et encore une fois, il n'y a aucun système multilatéral en matière d'investissement. Sur le droit de veto, d'abord, si vous me permettez, il y a une très grande différence entre l'unanimité et le consensus. L'unanimité, il faut recueillir l'accord explicite de tout le monde. Et s'il en manque un, ça s'appelle un droit de veto, la décision n'est pas prise. Le consensus, c'est, j'ai été payé pour le savoir pendant un moment de ma vie, le consensus, c'est quelque chose que vous constatez, et autant dans l'unanimité, celui qui émet un veto n'a aucune raison à donner à ce veto. Dans le consensus, généralement, on constate un consensus en attendant que quelqu'un s'y oppose. Et si vous êtes dans un groupe dans lequel vous constatez un consensus et que quelqu'un s'y oppose, le quelqu'un qui s'y oppose va quand même, en gros, être obligé d'expliquer pourquoi. Ce qui est un peu plus compliqué. Et la pression collective, donc il y a une grande différence entre les deux. Et je ne crois pas que, à l'OMC, le problème de la difficulté à accoucher de nouvelles couches réglementaires en matière d'ouverture des échanges, qui est réelle, puisque par exemple le Doha Round n'est toujours pas terminé, alors que ça fait longtemps qu'il a été commencé, je ne crois pas que le problème essentiel soit le consensus. D'ailleurs, l'expérience de Nairobi a montré que, effectivement, vous avez raison, les Indiens ont essayé de jouer, comme ils le font de temps en temps, leur partition singulière. Ça n'a pas mené très loin. Les vrais problèmes qui rendent difficile l'accouchement d'une nouvelle série de règles multilatérales en matière d'ouverture des échanges, tiennent plutôt à la nature des sujets, tiennent plutôt à la manière dont la négociation se fait à l'OMC. C'est plutôt la procédure législative qu'il faudrait revoir que la manière dont les décisions sont prises. On ne va pas, quelle que soit l'imagination institutionnelle dont vous pouvez faire preuve, vous n'allez pas aboutir à l'OMC à quelque chose qui ferait que les États-Unis seraient minorisés, ou la Chine minorisée. Regardez le temps qu'il a fallu aux Européens, c'est-à-dire 60 ans, pour arriver à un système de double majorité. Et d'ailleurs, si vous demandez aux gens dans la rue comment les Européens décident, ils ne savent pas qu'on décide maintenant avec un système de double majorité, qui est le système, disons, institutionnellement cohérent. Majorité des peuples et majorité des États. On n'arrivera pas à ce genre de dispositif à l'OMC avant le siècle prochain. Pourquoi ? Tout simplement parce que les décisions en question ont une telle influence sur la vie des gens, concrètement, sur leur fin de mois, sur leurs avantages comparatifs, que ça ne serait pas légitime.
Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Votre exposé était d'une clarté et d'une portée qui nous a tous frappés. La preuve en est le nombre de questions que vous avez eues. Je voudrais remercier nos confrères Corsia, Tirole et Pébro d'avoir renoncé à leurs propres questions compte tenu de leur tardive. Merci infiniment encore une fois de tout ce que vous nous avez apporté.